Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 6. Madame de Galandeau n'accepta pas d'un seul coup les arrangements de l'abbé Hubertet et de M. Dufresnay au sujet de sa nièce Julie de Mauceuil. Bien au contraire, elle refusa net de la recevoir chez elle pendant les 3 mois que l'enfant ne passerait pas au Fresnay. L'abbé se voyait fort embarrassé, d'autant plus que ses sentiments se trouvait en jeu en même temps que son devoir. Il ressentait en son cœur une sincère pitié envers la petite abandonnée. Quel souvenir bizarre devait garder l'enfant des gens parmi lesquels elle venait de vivre, entre un père hypocondre et une tante bariolée et falote, dont la folie dégénérait parfois en crise furieuse, où elle se roulait en écumant et d'où elle sortait chaque fois plus idiote et plus dégradée. Il paraissait indispensable à l'abbé d'éloigner au plus vite Julie de ses impressions dangereuses et funestes. Son séjour au Fresnay, cette maison bienveillante, gaie, toute pleine de l'odeur des pâtisseries, du parfum des élixirs et d'un concert de musique, lui ferait oublier aisément, peu à peu, les tristes et mauvais spectacles de Bas-le-Pré. D'autre part, et pour corriger la frivole tutelle de monsieur et de madame Dufresnay, il désirait vivement pour Julie la haute, sévère raison de madame de Galandeau, qui ne manquerait pas de lui inculquer de solides préceptes d'honneur et de vertu, et toute la religion nécessaire en assurer les principes. C'est cette influence à prendre sur une enfant que l'abbé faisait valoir à madame de Galandeau. Il savait que son orgueil ne serait pas insensible au pouvoir qu'on attribuait à sa vertu, et par là, il espérait la mener peu à peu à ses vues. Nicolas les secondait de son silencieux désir. L'abbé l'avait attendri sur le sort de sa petite cousine et Nicolas, dont le cœur était meilleur que l'esprit, éprouvait pour elle un charitable intérêt. Il assistait au débat entre sa mère et l'abbé, en y restant à l'écart comme de toute chose, car, habitué dès longtemps à ne pas agir par lui-même, il était incapable d'intervenir efficacement en quoi que ce fût. Madame de Galandeau évitait toute réponse définitive. Le temps pressait néanmoins, car l'abbé Hubertet allait bientôt quitter Pontaubel. L'évêque, qui estimait la science et la sûreté de l'abbé, venait de se l'attacher comme secrétaire. Monsieur de Lagrangère devait partir pour l'Italie sur la fin de l'automne, chargé par le roi de négociations secrètes, et il emmenait avec lui monsieur Hubertet, qui tenait fort, avant son départ, à avoir introduit la petite Julie à Pontaubel. Il s'en ouvrit à monsieur de Lagrangère et lui demanda conseil. Madame de Galandeau respectait fort son évêque qui, d'accord avec l'abbé, se résolut d'user de son pouvoir pour imposer à madame de Galandeau, au nom de la foi, ce qu'elle refusait à la parenté, et pour en finir, ils prirent le parti de brusquer l'affaire. Monsieur de Lagrangère fit donc annoncer sa visite à madame de Galandeau sous couleur de prendre congé d'elle avant son voyage et, un beau jour, vers 3 heures de l'après-midi, le carrosse épiscopal entra dans la cour de Pontaubel. L'évêque fut reçu à la portière par l'abbé Hubertet et par Nicolas de Galandeau. Nicolas avait alors 24 ans et beaucoup d'embarras et de timidité sous l'habit de cérémonie revêtu pour la circonstance. On échangea des politesses. L'évêque s'excusa que le chanoine qui l'accompagnait ne descendit pas à cause de la goutte qui lui tenait les jambes gourdes. Monsieur Durieux présentait en effet la mine rubiconde du parfait podacre. Sa corpulence remplissait exactement le cadre de la portière qu'il referma sur lui quand, après les saluts d'usage, il se fut rassis au fond du carrosse où on le laissa. La compagnie se dirigea vers le château. L'évêque marchait à petits pas de ses jambes courtes. Il était alerte et vif et, en sa petite taille, de grande autorité. On le disait habile homme et adroit courtisan. Il avait fait un long apprentissage des brigues et des pratiques humaines et s'en était toujours tiré à l'avantage de ses amis et à la confusion de ses ennemis. Il fallait qu'il connût à fond l'intrigue ecclésiastique pour mériter qu'on le jugeât propre à affronter les affaires délicates de la politique romaine. Du choix qu'on venait de faire de lui, il ressentait toute l'importance et tout le prix. Aussi ne doutait-il pas de ses succès ultramontains, non plus que de la réussite de l'entreprise plus modeste qui l'amenait aujourd'hui à Pontaubel. Après les premiers compliments, la conversation prit un tour familier et M. de Lagrangère demanda à visiter les jardins. L'entretien s'y continua. L'évêque marchait auprès de Madame de Galando, qui, pour la première fois, regretta l'état d'abandon et de négligence où se trouvaient, faute de taille et de ratissage, les charmilles et les allées. On était arrivé à un rond-point. L'évêque, un peu essoufflé, s'arrêta et, regardant autour de lui, il leva ses mains fluettes. « Certes, madame, quoi que vous disiez de ce qu'il est et pensiez de ce qu'il fut, ce lieu n'en reste pas moins fort beau. Je comprends les regrets de notre abbé d'avoir à en quitter bientôt les tranquilles ombrages. » Et là-dessus, il vint à laisser entendre que de puissants intérêts voulaient qu'il emmenât à Rome M. Hubertet. Il insista sur les hésitations de l'abbé, son attachement à son élève. « Car, madame, notre abbé a mené modestement et sûrement une grande tâche. Il a fait, avec votre secours et sous vos yeux, de votre fils un gentilhomme pieux et bon. Je ne doute pas que M. Nicolas le fût devenu par lui-même et que vos conseils eussent suffi à diriger un si heureux naturel. Mais l'abbé a contribué pour sa part à joindre à un cœur que vous avez formé un esprit qu'il travailla de son mieux à nourrir et à orner. Nicolas, n'était-il point versé aux lettres antiques, latinistes accomplies ? L'évêque n'en voulait pour preuve que les belles sentences cicéroniennes échangées entre eux à la descente du carrosse. Nicolas n'avait plus rien à apprendre. « Le voilà tout à fait homme, » concluait M. de la Grangère, « et capable non seulement de soutenir l'honneur de sa maison, mais encore d'y ajouter. » Madame de Galando, tout en exprimant les regrets de circonstance, acceptait assez bien le départ de l'abbé, qui depuis quelques semaines ne cessait de la harceler au sujet de la petite Julie et qu'elle commençait à trouver importun. Il y avait là un banc de pierre. L'évêque et Madame de Galando s'y assirent pour continuer l'entretien. Un vent léger faisait frissonner les cheveux gris de Madame de Galando et M. de la Grangère, le nez un peu rouge par la fraîcheur de l'air, l'écoutait finement se complaire aux détails de ses labeurs maternels. « Oui, madame, si l'abbé, à sa part de la bonne éducation de votre fils, répliqua quand elle fut au bout, le malin prélat, en saisissant une pente favorable à son projet, vous y avez la vôtre, et la plus belle, qui revient aux exemples de votre haute vertu. Ah, je comprends, madame, votre légitime satisfaction et votre bonheur d'être déchargée d'un grand devoir. Maintenant que cette belle œuvre est terminée, il vous serait doux, ma chère fille, de rentrer en votre paix intérieure. Mais le bien est insatiable. Ne croyez-vous pas que d'autres soins vous appellent et resterez-vous sourde à leur voix ? Je vous ai toujours tenu quitte des œuvres extérieures, continua l'évêque en souriant. Mais Dieu vous en réserve une à laquelle vous ne vous attendiez point. Dieu a pourvu de lui-même au remploi de votre loisir. Il sait tous nos besoins et même ceux dont nous ne nous doutons pas. Il faut que vous accueilliez votre nièce, Julie de Mauceuil. Le choc fut dur. Au premier mot, Madame de Galando se rebiffa avec une sécheresse et une hauteur déterminée. L'évêque ne se déconcerta point. Il avait subi de plus rudes assauts et lié de plus fortes parties, et il savait bien des chemins. Il prit d'abord celui de radoucir. Puis, les faits manquant, il parla à son tour haut et sec, redressé dans sa petite taille. Ses mains agiles et persuasives gesticulaient aux yeux de Madame de Galando, qui voyait passer et repasser devant elle, à l'annulaire, le point d'or de l'anneau épiscopal, et ne répondait rien. Alors, M. de la Grangère s'échauffa. Il dénonça le murmure public, le scandale de cet abandon, exigeant par calcul plus qu'il ne voulait, puis, tout à coup, réduisant l'obligation à 3 mois, qu'il obtint. On fixa le séjour, chaque année, de la mi-juillet à la mi-octobre. L'évêque entama alors l'éloge de l'enfant. Madame de Galando, levée brusquement du banc de sa défaite, allait à grands pas vers le château. M. de la Grangère la suivait sur ses courtes jambes, tout guilleret de cette retraite précipitée et de cette colère. On croisa Nicolas et l'abbé Hubertet. L'abbé venait de mettre son élève au courant de sa décision et de ses projets de voyage. Tous deux pleuraient. Ils marchèrent derrière l'évêque, qui reprenait haleine auprès de Madame de Galando, enfin ralentie et modérée. De temps à autre, on entendait le pauvre Nicolas se moucher bruyamment. On arriva au carrosse. Tout le monde faisait cercle, quand, la portière ouverte, on vit le gros chamoine goutteux, assis nu-tête sur la banquette du fond, et, sur l'un de ses genoux, Mademoiselle Julie, que l'évêque avait amené en cachette avec lui, coiffé de la perruque et au nez les besicles du pauvre monsieur Durieux, qui, rouge et effaré, ne savait quelle contenance prendre ni comment se débarrasser de l'importune. Ce fut en cette bizarre posture que madame de Galando fit la connaissance de sa nièce. On convint qu'elle passerait cette fois 2 ou 3 jours à Pontobel et que l'abbé la reconduirait au Fresnay, d'où elle venait, avant de rejoindre son nouveau poste auprès de monsieur de la Grangère, qui, ayant pris congé de la compagnie, mit le soulier au marchepied. Le gros cocher fouetta les chevaux. Les roues tournèrent, laissant dans la cour de Pontobel, auprès de madame de Galando, entre l'abbé Goguenard et Nicolas interloqué, une belle petite fille blonde et mutine qui regardait, à travers les besicles qu'elle s'était obstinée à ne pas rendre, disparaître le grand carrosse où monsieur le chanoine Durieux confessait à son évêque que cette gentille demoiselle de Mauceuil était vraiment le diable en personne. Ce qui lui aurait paru bien plus vraisemblable encore s'il l'avait entendu derrière eux rire à grands éclats de 3 gros crottins frais et fumants qu'avait espacé sur le pavé l'attelage bai de monsieur de la Grangère.